18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Vous le savez, c'est un plaisir de vous retrouver chaque soir ici même. Alors bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver, chers amis, partout en France, vous nous écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux et je suis ravi. Allez, c'est parti au sommaire de cette émission, vous le savez, de 18h jusqu'à 19h30, eh bien nous analysons, nous commentons et notamment nous décryptons l'actualité. Parce que c'est ici et nulle part ailleurs et en toute liberté d'expression, vous vous rendez compte quand même, l'une des rares radios. Allez, au sommaire de cette émission, d'abord, je voudrais consacrer une demi-heure avec vous à parler de cette colère qui monte. J'aimerais qu'on se pose plusieurs questions, vous les auditeurs. Vous pouvez déjà, Anthony vous attend d'ailleurs. Bonjour Anthony.
Bonjour Adil, bonjour tout le monde.
Comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Alors tu me confirmes que dans les supermarchés, la hausse flambe.
Ah mais c'est plus que ça flambe là, c'est une explosion de prix.
Et tu vois la galère des gens.
Ah là, la misère des gens, ouais, c'est terrible.
Ah, tu parles carrément de misère quoi.
Non, bah, je travaille en supermarché le week-end et je vois les prix exploser, c'est terrible.
Eh ben, on va en parler justement au 01 53 48 3000, chers amis auditeurs partout. Je voudrais qu'on se parle tranquillement ici même. Plusieurs sujets. Alors, le premier, c'est justement celui-là, le quotidien, la misère de notre quotidien, la hausse des prix, le DF, etc. Et puis le panier quand vous allez faire des courses. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir tenir jusqu'au bout et à quel point peut-on tenir encore? La galère de notre quotidien. Je voudrais qu'on en parle au 01 53 48 3000. Anthony vous attend tout de suite. Second sujet. Le second sujet, vous savez quoi? C'est cette ambiance concernant les Gilets jaunes qui veulent remettre le paquet ce samedi. Est-ce que vous êtes d'accord avec les Gilets jaunes? Il y a aussi quelques jeunes des quartiers populaires aussi qui veulent en découdre avec la société. Eh bien, figurez-vous, ça converge. Je lis ici et là, sur les réseaux sociaux notamment. Eh bien, vous savez-vous, figurez-vous que les Gilets jaunes veulent en découdre avec tout dès ce samedi. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce qu'ils ont raison? Et notamment, est-ce que vous rejoignez, évidemment, leur colère? Voilà. Je voudrais vous entendre sur ces deux sujets. 01 53 48 3000. Ensuite, après 18h30, c'est Pascal Boniface qui viendra lui-même nous livrer son point de vue sur un sujet d'actualité. C'est son billet d'humeur. Et puis ensuite, vous le savez, le face-à-face à 18h30 jusqu'à 19h30. Eh bien, il s'agit de ce soir de deux personnalités, Karim Alouache, notre financier, face à notre syndicaliste CGT, Jimmy Dalidou. Deux points de vue différents, deux points de vue qui vont clasher et deux points de vue, vous savez quoi, qui vont commenter l'actualité sur la réforme des retraites, sur la grogne sociale, sur Pape Ndiaye, le collège, l'accompagnement des sixièmes et la pénurie du Doliprane. Aïe, 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 aïe. On est encore en France?
Je ne sais pas. Là, c'est l'explosion.
Exactement. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Je vois que ça pète là, alors les auditeurs ont la parole, c'est parti.
01 53 48 3000. Les Informés vous donnent la parole.
Quand je dis je vois que ça pète, je m'adresse à toi, Anthony. Je vois qu'au standard, tu courais là, hein. Pendant que je faisais la réelle et tout, je te voyais. Je me suis dit, il est bon lui, il est bon.
Ah bah écoute, j'ai pris le train là, ça y est, on a lancé la machine.
À peine tu t'es installé, paf!
La console, les jingles, le standard, je gère ton micro, la totale.
Il est bon. Il y a un sujet que j'aimerais lancer, c'est l'auditeur le plus ancien de... Tiens, je le faire, tiens, dans les prochains jours. Je te promets, je vais lancer ça.
Ouais. Bah, tu sais quoi? Je pense que c'est Méziane qui appelle le soir.
Non, il y a Mamadou de Grenoble.
Ah,
tu le savais pas.
Parce que moi, Mézi, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il m'a quand même sorti « Bonsoir Radio Beurre ».
Ouais. Et bah, Mamadou, c'est la création aussi.
Ah bah, ils sont deux.
Il y a aussi Fatima.
Aussi, oui.
Voilà. Leïla de Saint-Etienne, bonsoir ma chère Leïla, comment ça va?
Oui, bonsoir, vous m'entendez?
Très bien Leïla, tout va bien pour toi? Pour vous?
Oui, je vais bien, ouais, tout va bien, alhamdoulilah, merci, c'est gentil.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Leïla?
Je suis dans l'enseignement.
L'enseignement.
En anglais.
Bon, vous avez vu que Pape Ndiaye, là... Il a lancé que les professeurs des écoles interviendront en sixième pour une heure d'accompagnement. C'est une bonne idée, ça? J'adore.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou une... Enfin, voilà. Oui. Au moins, ils tentent des choses après. Oui. Et voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut y penser à comment ça va se passer au niveau des déplacements, au niveau des... Ah, je sais pas. Ouais. Moi, je suis au lycée en plus, donc
bon.
Quelque chose voilà, qui me concerne moi, mais...
Alors là, parlons des deux sujets que je vous ai proposés. Lequel vous choisissez ce soir?
Alors, j'ai entendu surtout l'inflation, les prix qui explosent, le porte-monnaie des gens, les gens qui sont pas, contents. Non, et moi, j'ai trois anecdotes à vous raconter. Pour le nouvel an, j'ai appelé ma famille. Chacun devait apporter quelque chose à manger et on devait tous se rassembler et puis donc manger ensemble. Mmh. Et là, pour la première fois, je vous assure, ça fait 10 ans qu'on fait ça, pour la première fois, tout le monde a pris les restes, en fait, de ce qu'il avait apporté. C'est pour vous montrer, hein.
Non. Ah oui, effectivement, c'est un indicateur, vous avez raison Laïla, c'est un indicateur, c'est vrai.
D'habitude, personne ne prend, ça fait 10 ans, je le fais.
Ça vous a frappé,
là, c'est
ça,
la première fois. Ouais, ça m'a surpris, mais j'aurais fait la même chose, honnêtement.
Ouais.
J'aurais vraiment fait la même chose.
Qu'est-ce que ça traduit, ça, là? Ça traduit quoi?
Bah, ça traduit qu'on est malheureusement donc au centime près, heureusement, pour s'en sortir, on n'a plus le choix. Il faut compter, recompter, recompter, ouais. On n'a plus le choix.
Non, c'est vrai qu'on n'a plus le choix. J'ai vu certains d'ailleurs qui comptent et qui peuvent d'ailleurs même certains se pénalisent leurs vacances scolaires. Vous le savez. Avant, ils pouvaient partir, maintenant, ils ne partent plus.
Hein, je ne peux pas partir, j'ai pas pu partir cette année parce qu'effectivement, il fallait faire des choix et on a fait des choix.
Ouais. Mais vous êtes d'accord avec les. J'ai aussi posé une autre question, c'est-à-dire que, à savoir, les Gilets jaunes, vous savez, qui vont investir Paris ce week-end, samedi.
En fait, je suis d'accord.
Et ils sont en colère. Il n'y a pas que les jeunes des quartiers, certains jeunes des quartiers aussi.
Mais tout le monde, hein, les fonctionnaires, je suis fonctionnaire, je suis en colère aussi, hein, on n'en peut plus, on est tous là en train de se serrer la ceinture, etc., on est tous en colère. Mais après, moi, ce qui me fait peur dans les Gilets jaunes, c'est juste que j'ai pas envie d'entendre parler de violence comme ce qui s'est passé, j'ai pas envie qu'il y ait des Gilets jaunes qui se retrouvent en prison, frappés, l'œil explosé par des pétards. C'est vrai que ça me fait beaucoup peur, quoi.
Ouais,
et je suis dégoûtée parce que même moi, je peux, j'ai envie de manifester ma colère et tout, mais la violence policière et autres me fait tellement peur que je me retranche un peu sur moi-même, quoi. Ouais. Et c'est pas la solution, hein.
Vous les comprenez, les Gilets jaunes, quand ils ont décidé d'annoncer leur grand retour?
Tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord. Tout à l'heure, tellement j'ai créé, parce que j'en ai parlé un petit peu avec Vanessa, à un moment donné, j'ai proposé un troc de cours d'anglais. Donc, c'est-à-dire que je donne des cours d'anglais en échange de, peu importe, en échange de quelque chose, pas monétaire, mais en échange de troc. Et Vanessa m'a expliqué pourquoi pas créer un groupe. Et tout à l'heure, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai créé mon groupe, en fait, d'échange sur Facebook. Je l'ai appelé Let's Exchange. Et je me suis dit, allez, je vais mettre en place des trocs, quoi, pour essayer d'aider un maximum de personnes, voir ce qu'on peut s'apporter, voir comment s'unir dans ces moments de crise, vraiment. Je l'ai créé tout à l'heure, en plus, vous voyez, pour vous dire à quel point je me suis dit, allez, faut bouger,
non,
faut faire des choses.
Bon. Il faut... Ouais. Vous captez quand même dans l'air que ça sent pas bon, qu'il y ait une espèce de pression, hein?
Ah ouais, mais complètement, il y a une pression, mais on la ressent. Bah, alors, la deuxième anecdote, c'est que tout à l'heure, j'ai de la chance d'avoir un appartement que j'ai acheté en 2008. Cet appartement, j'ai pas pu le vendre parce qu'avant, le prix immobilier était bas à Saint-Etienne. Mmh. Et là, les prix sont encore plus descendus. Du coup, je suis perdante dans la vente. Mon petit nourrisson. Et attendez, du coup, je l'ai mis en location, l'appartement. Ça fait marre pareil. Ça fait 8 ans qu'il est loué à la même personne. Tout se passe super bien. Mais la personne tout à l'heure m'a appelé en pleurs en me disant, mais là, je suis désolée. T'as vu, ça fait 8 ans que je paye, qu'il n'y a pas de souci. Mais là, je ne peux pas payer pendant au moins 2-3 mois. Je suis vraiment cause d'un divorce dans la merde jusqu'au cou. Je lui ai dit, écoute, je comprends. Pendant 2-3 mois, il n'y a pas de souci. On verra comment on va faire. Et je te remercie de m'avoir dit. Et c'est vrai qu'elle me met aussi dans la merde, puisque j'ai un crédit dessus et je paye des taxes foncières dessus. Donc, vous voyez ce que je veux dire?
Donc, ça vous met, pardonnez-moi l'expression, ça vous met dans la merde, comme vous dites-vous.
Ah ouais, mais ça me met complètement dans la merde. Mais au moins, elle a eu le cran de m'appeler, de me dire, je ne peux pas payer, quoi. Pendant 2-3 mois, c'est compliqué pour moi. Donc, vous voulez que je fasse quoi? Oui, je ne vais pas aller l'expliquer, prendre un avocat. Déjà, je n'ai pas les moyens. Mmh. Et en plus, la personne a été honnête pendant 8 ans. Je me vois mal aujourd'hui dire, allez, sors de chez moi. Oui. D'où mon groupe Let's Exchange sur Facebook que j'ai créé. Et ma troisième anecdote que j'ai oubliée, mais ce n'est pas grave.
Vous avez oublié la troisième anecdote? Elle va revenir.
Oui, c'est sur le papa des enfants. Je suis divorcée et le papa de mes enfants m'a appelé, pareil, pour me dire qu'il ne pouvait pas payer la pension pour les enfants, que c'est compliqué et tout. Et pareil, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, vous voulez qu'on fasse quoi?
Jamais avec vous, il n'y a pas de souci. Alors, elle ne peut pas payer son loyer, il n'y a pas de souci. Le papa qui ne peut pas payer sa pension, il n'y a pas de souci. Effectivement, qu'est-ce que vous voulez faire, effectivement? Enfin, je pense que la réponse, c'est pas il n'y a pas de souci, c'est Comment compenser cela? C'est surtout ça, c'est comment essayer de trouver une solution. Parce que faut pas non plus vous mettre évidemment dans une grande fragilité, ma chère Leïla, vous comprenez?
Mais là maintenant, je vais la sentir, la grande fragilité. Payer un crédit de ma poche, pas avoir d'entrée, je vais la sentir effectivement la fragilité. Mais après, je veux
ça
dire,
va vite, hein. Ça va très vite.
Ah, ça va vite. Pourtant, je fais tout maison. On mange jamais au restaurant, c'est très très rare. Quand je fais des vide-greniers, j'essaie de trouver des petites astuces, des vêtements des enfants, etc. Au vide-grenier, tu te dis, mais bordel, tu es fonctionnaire, t'as galéré pour avoir Bac+5, etc. Et tu te retrouves à compter les sous centime par centime. Je regrette mes études. Je me dis, j'aurais dû être auto-entrepreneur, j'aurais dû faire autre chose. J'aurais dû passer papa de fonctionnaire, en fait. J'aime mon métier, hein, je le kiffe, hein, mais je sais pas. C'est vraiment compliqué, je trouve, de plus en plus. Hein.
Votre témoignage m'interpelle, ma chère Leïla. Je voudrais entendre les autres auditeurs justement réagir à ce propos. 0153483000, est-ce que vous vivez les mêmes difficultés, les mêmes fragilités dans votre quotidien? Est-ce que comme Leïla aussi, pareil, vous êtes heurté justement à cette inflation qui vous frappe de plein fouet, c'est-à-dire dans votre quotidien, y compris dans votre panier, y compris dans vos courses, y compris dans votre... Ce que vient d'expliquer Leïla est saisissant, c'est vrai. Moi, je ne savais pas qu'effectivement... Encore plus lorsque vous êtes mère divorcée et que vous êtes obligée, Leïla, d'assumer vous-même et de prendre vos responsabilités. C'est vrai, vous n'avez pas le choix.
J'ai pas le choix. Et je vous assure, hein, j'ai ma fille qui est interne parce qu'elle a réussi un concours. Donc, du coup, il faut payer l'internat, il faut payer le transport. Il y a plein de choses qu'on doit payer. Mais bon, alhamdoulilah, on ne va pas se plaindre.
Ouais, mais bon, ne lâchez rien, Leïla. Hein.
Lâche rien, vous inquiétez pas.
Ouais. Ne lâche rien. Après, il faut trouver des solutions concernant évidemment les deux cas de figure que vous avez soulignés. Le papa de vos enfants qui lui ne peut pas apporter sa pension. C'est son devoir, mais il faut trouver une solution. Et puis celle qui ne peut pas assumer aussi les loyers, il faut aussi trouver une solution. Il faut mettre. Vous savez, il faut pas laisser ça comme ça à la traîne. Il faut des traces écrites.
J'ai eu tout ça aujourd'hui, donc d'où la création de mon groupe, d'où j'essaie de.
Des traces écrites et que voilà.
Ouais, vous avez raison. Oui, vous êtes tout à fait.
À quel moment, ils doivent honorer leur échéancier? Parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout. Hein.
Non, mais vous avez tout à fait raison.
Je ne sais pas si j'ai raison, mais je me permets de vous donner ce conseil. Portez-vous bien, Leïla.
Mais je le prends. C'est gentil, à très bientôt. J'écoute notre éditeur, à bientôt, au revoir.
À bientôt, 18h12, 13 précisément, nous allons marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Je voudrais vous entendre au 0153483000. Venez justement partout en France, ici même, c'est ici que ça se passe. Venez, on va converser ensemble justement sur les deux sujets que je vous ai proposés. Concernant le premier, eh bien tout simplement, un peu comme Leïla, vous avez beaucoup de difficultés à subvenir à vos besoins, c'est-à-dire que les fins de mois sont compliquées et la colère, est-ce que vous la comprenez cette colère? La grogne sociale et puis la colère des gilets jaunes qui s'installent samedi, qui investit Paris, ça y est, la colère elle est palpable, elle est là, elle est présente. Est-ce que vous soutenez les gilets jaunes et est-ce que vous soutenez leur évidemment le mouvement pour samedi prochain, ce samedi-là, et est-ce que vous comprenez cette grogne? À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Nous sommes ensemble, je voudrais vous entendre là maintenant, je vous sollicite, chers amis auditeurs, partout en France, 18h20, deux sujets, allez c'est parti.
01 53 48 3000, Les Informés vous donnent la parole.
Le premier sujet, c'est que la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de dérives des prix à la consommation, et c'est loin d'être fini, parce que figurez-vous que le prix à la fois de l'énergie, là on parle d'inflation, et puis aussi du panier, c'est-à-dire quand vous allez faire les courses, eh bien ça va commencer, voire même certains experts conso. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent qu'on va s'attendre à un mois de mars rouge. Ah! Clochette! Ça fait flipper ça quand même. Hein. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, si ça commence comme ça, c'est pas très rassurant, chers amis. Et qu'en pensez-vous, justement, un peu comme Leïla, je vous attends 0153483000. Est-ce que vous soutenez aussi, notamment, les gilets jaunes? Les gilets jaunes, vous savez, qui ont décidé d'investir de nouveau. C'est le retour, le grand retour des gilets jaunes ce samedi, parce que c'est une nouvelle manifestation qui est attendue ce samedi, partout dans Paris, justement, parce que ça parle d'inflation, d'énergie, de carburant. Bref, les prix qui enflent, les prix qui sont en cascade. Eh bien, il faut qu'on en parle. 01 53 48 3000, je vous attends tout de suite. Anthony vous attend précisément. 01 53 48 3000. Le standard est ouvert, c'est parti pour en parler justement. À tout de suite. C'est pas à tout de suite, d'accord, pardon. On va juste une petite courte pause, courte, très, très courte.
J'ai cœur de pirate toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandie, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. J'ai cœur de pirate toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandie, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. Sombre négro dans le texte, on fait du salvé. L'inspecteur est ravi, police en bas chez lui. Mais son cache à l'abri, car c'est qu'il va prendre longue vie. Car très sombre délit, you vois comme Machiavelli. Comme la mort n'a que ennemi, ses potes ont long Kenny. Depuis vit dans le délice, moi dans le cellule comme pas permis. Ne pense qu'à make money, au jour de sa sortie. Orgie, drogue, dure, morphine, bitches. Puis un jour est sorti, a retrouvé sa money. A baisé comme pas permis sur le sol, ongle garni. Comme la mort n'a qu'une seule vie. Comme la mort n'a qu'une seule vie. J'ai cœur de pirate toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandit, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. J'ai cœur de pirate toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandit, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. Du sale toute la noche, moi je connais déjà la fin. Police, tantôt qui walkie, ont déjà sorti le machin. Deux roues, regard hostile, ville rouge, cadré, profil. J'ai toujours glock que j'échappe, arme de feu et de poing. Avenir, avenir sans lendemain, je sais que je pédaille à tout moment. La crosse sur les deux mains, je vise le coup plein d'oscillations. Globuleur, revolver, mais je tire sur les passants. Plus violent dans mes actions, mauvais garçon, agitation. La drogue fait effet. Je plane, je suis à Toulouse. La playa face au genou, j'abris tellement de peur. Une racaille comme un pas de le cœur, un peu rocailleux, tu fais semblant de m'aimer. Confonds pas insensible avec souffrir en silence. Bien sûr que je suis émotif, l'intérieur érosif. Mais ma douleur est taiseuse, patiente, pleine d'endurance. Au bel j'ai qu'un de pirate toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandit, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. J'ai cœur de pirate toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandit, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night.
Quelques aléas techniques, justement, allez, le jingle des auditeurs ont la parole, c'est parti tout de suite.
01 53 48 3000, les informés vous donnent la parole.
C'est les aléas du direct, Anthony, t'inquiète pas, qu'est-ce qui s'est passé là? Tu t'es emmêlé les pinceaux, c'est ça? Explique-nous aux auditeurs qu'est-ce qui s'est passé.
Alors,
moi j'aime bien livrer les coulisses justement de la radio. 01 53 48 3000, je vous attends chers amis auditeurs. Il faut qu'on parle des sujets qui fâchent, hein. Vous savez, la colère, est-ce que vous aussi vous êtes en colère justement quand on parle de l'inflation, quand on parle du panier de course, tout ça, toutes les galères qu'on vit dans notre quotidien. Venez en témoigner et puis aussi les gilets jaunes et samedi, est-ce que vous comprenez aussi cette colère qui est cette grogne sociale? 01 53 48 3000, je vous attends. Anthony, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, j'ai prévu une musique en secours au cas où s'il y avait toujours personne. Donc j'allais enchaîner normalement en faisant un bel enchaînement comme j'ai fait d'habitude.
J'appuie sur le jingle.
Et le jingle ne part pas. Donc cela a provoqué un blanc. Ouais. Et pour éviter que le disque de secours, parce qu'il faut expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que le disque de secours, donc c'est pour combler l'antenne, le déclenche.
Et c'est déclenché tout seul. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que c'est bien d'expliquer parfois à nos auditeurs qu'ils comprennent. Parfois, vous savez, il y a des petits, comme c'est des lancements de musique, etc. C'est les aléas du direct. Parfois, on est pris par quelques confusions, on va dire ça.
Voilà. Je rassure, le technique. Secours, le disque de secours n'est pas parti, heureusement.
Exactement. 01 53 48 3000, on vous attend, chers amis auditeurs.
01 53 48 3000, les informés vous donnent la parole.
Je vous donne la parole, justement, je voudrais vous entendre. 01 53 48 3000, les gilets jaunes. Je parle aussi, vous savez quoi, et tout simplement, eh bien, de la colère, cette colère qui grogne, la grogne sociale qui commence à gagner le pays. Est-ce que ça aussi, vous êtes d'accord avec ça? Puis surtout, est-ce que vous-même, vous êtes confronté tout simplement à ce quotidien qui se fragilise financièrement et ce qui se complique de plus en plus? Est-ce que c'est votre cas, vous aussi, partout en France? Je voudrais vous entendre parce que c'est important qu'on en parle ici même au 01 53 48 3000. Oui, je voudrais vous entendre parce que c'est et partager évidemment tout cela ensemble avant de retrouver Pascal Boniface. 01 53 48 3000, chers amis auditeurs, nous vous attendons. À tout de suite. Alors, à qui ai-je l'honneur là tout de suite avant de prendre évidemment le premier auditeur? Allez, ça appelle, c'est bien, nous allons vous prendre un par un. Le premier, bonjour. Bonjour, bonjour, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, quel est votre prénom et vous nous appelez d'où?
J'appelle de Orléans.
Orléans! Quelle vie! Quelle vie! Hanan, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Alors, je travaille dans le secteur social.
Oui, ça se passe bien.
Je souhaite intervenir par rapport au second thème, l'inflation.
Ouais. Allez-y, ma chère Hanan.
Donc, voilà. Donc, là, sincèrement, c'est l'émission qui m'a vraiment fait peur. Parce que à chaque fois qu'on entend à la télé, aux infos, à la radio, on parle inflation, donc je fais abstraction pour ne pas me faire peur. Hein, et donc là, ça m'a vraiment fait peur parce que je viens de commencer un nouveau boulot payé au SMIC, hein, et avec l'assurance, les tickets resto, etc. Donc ça me reste à peu près 1600 euros avec un enfant.
Oh là 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 là.
Avec des charges. Et donc, voilà.
On voit que c'est compliqué. Hein. Vous aussi, comme Leïla tout à l'heure, c'est vous êtes fragilisé.
Exactement. Et donc, j'ai fait une demande de la prime d'activité qui m'a été refusée parce que mon ancien salaire était ATS.
Votre prime, la prime que vous avez demandée a été refusée?
Elle a été refusée parce que mon ancien salaire, hein, je touchais assez beaucoup. Et donc, ils prennent les ressources précédentes.
Oh là 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 là, c'est terrible, effectivement, ce que vous racontez là. C'est
exactement. Terrible.
Qu'est-ce que vous comptez faire, Hanan?
Sincèrement, je n'ai aucune idée. Chaque jour qui passe, hein, c'est déjà bien. Et puis, avec mon nouveau salaire, je vais voir comment ça va.
Ça va se goupiller, tout ça.
Exactement, oui.
Bon courage, ma chère Hanan. Ça va être compliqué, mais bon courage. Bon courage, il faut rien lâcher.
Merci.
Dans une poignée de secondes, on va retrouver le Quoi de Neuf avec, justement, Pascal Boniface. Tiens, je vais accueillir Chemsedine d'Argenteuil. Bonsoir, okay. Chemsedine d'Argenteuil.
Ouais, bonsoir à tous.
Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Chemsedine?
Je suis enseignant.
Je vous écoute, bienvenue.
Ben voilà, moi, j'aimerais rebondir sur l'espace concernant l'inflation. Et les gilets jaunes.
Oui, vous avez vu?
Ouais, bah oui, j'ai vu les gilets jaunes. De manière, nous, dans les cités, ça fait longtemps qu'on vit ce problème. Hein. Mmh. Travail, précarité, on connaît ça, quoi. Mmh. On a l'impression que les gilets jaunes, ils se réveillent, quoi. Ils découvrent ça. Nous, on est baignés dans ça depuis longtemps.
Ouais.
On a toujours vécu dans ça.
Ouais.
Et autre chose, et moi, parce que j'ai entendu dire qu'il y a certains gilets jaunes qui étaient racistes,
ouais.
Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal.
Ouais, ils sont minoritaires, hein, c'est pas, vous inquiétez pas, c'est moi je les reçois régulièrement ici sur le plateau, ils seront là demain d'ailleurs. Dont ah, Fauzi ouais. Qui sera avec nous, il y aura aussi il y aura du beau monde demain, vous écouterez demain, vous verrez qu'il y aura pas mal de représentants de gilets jaunes.
Ouais, je sais pas bien. Et ouais, concernant l'inflation, il faut dire qu'après au niveau politique, moi je comprends pas. Tu vois un petit peu ce que ça cause, l'Ukraine. On se dit, ouais, l'Ukraine, ça, à cause de ça, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de céréales, il n'y a rien du tout.
Ouais.
Et l'idée, c'est quoi? D'amorcer cette situation.
Ouais.
Venir, rajouter de l'huile sur le feu. Moi, je ne comprends pas les politiques. Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas. Là, on vit dans une époque un peu compliquée. Je sais pas, il y a des choses à mettre en place. Le Covid, ils ont mis énormément d'argent sur la table. Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien.
Alors, je comprends, là, vous avez, là, de plus en plus, vous êtes en train de nous faire part de votre fragilité, justement, financière, qui se complique comme tous les jours. Hein. Il n'y a même plus besoin d'attendre le fin de mois, ça se complique dès le départ.
Bien sûr, hein. Ouais.
Parfait. Merci, Chemseddine, d'être intervenu.
Bah, je t'en prie, hein.
Après, j'irai direction Le Mans et après Saint-Étienne, mais pour l'heure, il est 18h31 et nous allons accueillir Pascal Boniface.
Les informés, le quoi de neuf.
Le quoi de neuf, c'est avec Pascal Boniface, le patron, le fondateur de l'Institut Léris. Bonsoir Pascal Boniface.
Bonsoir Adil et bonne année à toi et à tous les auditeurs.
Eh ben merci, je te la souhaite pareillement. Bonne année, bonne santé surtout. Vous avez décidé, mon cher Pascal Boniface, de traiter d'un sujet, c'est le tout nouveau gouvernement israélien qui se met en place. Nous vous écoutons pour votre billet d'humeur.
Voilà, donc après quelques tractations, un nouveau gouvernement s'est mis en place en Israël et on a dit que c'était le gouvernement le plus à droite, même le plus à l'extrême droite de l'histoire israélienne. C'est vrai parce qu'il y a un parti qui a quand même 14 députés, dirigé par M. Ben-Gvir, 14 députés avec lesquels Netanyahou a fait un accord parce que sinon il ne pouvait pas revenir au pouvoir. Et c'est un peu aussi en échange de un peu qu'on oublie ses projets de la justice. Mais ce parti est ouvertement raciste. D'ailleurs, son leader avait un peu appelé à l'assassinat de Rabin. Ce sont des gens qui étaient déjà en 1995 très hostile au processus de paix et à ceux qui le portaient en Israël. Alors, quelles peuvent être les conséquences? Bien sûr, de toute façon, le processus de paix, il est mort depuis longtemps. Il n'y aura pas beaucoup de changements là-dessus. Il était illusoire de penser qu'une paix juste pouvait survenir après des négociations entre Israël et Palestine. Mais là, il y a quelqu'un qui maintenant est ministre de la Sécurité, qui est ouvertement raciste et qui pourrait permettre de tirer plus facilement sur les Palestiniens soupçonnés, accusés de terrorisme ou d'opposition aux forces. Il y a quand même déjà 140 Palestiniens qui ont été tués par les forces de sécurité israéliennes l'an dernier. Le bilan pourrait être encore plus lourd cette année. Et puis, ça va quand même susciter des réactions, puisque aux États-Unis, la communauté juive, qui est plutôt libérale, même très libérale, s'inquiète un peu de cette droitisation extrême d'Israël. Pour les pays qui ont signé des accords de paix avec Israël, si la situation se durcit, si le ministre fait des déclarations ouvertement racistes, ça sera un peu plus gênant de justifier cela. Et quant aux pays occidentaux, ils auront du mal quand même à dire qu'ils sont pour la solution aux deux États, qui est un peu le mantra que l'on répète sans y croire. Mais on peut dire que cette illusion permet de ne pas avancer réellement et de ne pas prendre des décisions. Là, ça sera peut-être autre chose. Et puis, c'est aussi inquiétant pour les Israéliens, parce qu'ils craignent que leur liberté soit réduite, et notamment pour la communauté LGBT. Enfin, il y a vraiment des inquiétudes en Israël là-dessus. Et il s'est passé là quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que Ben-Gvir avait dit qu'il irait sur les stades des mosquées. Netanyahou lui a dit que c'était préférable de ne pas le faire, que ça pourrait irriter les pays arabes proches d'Israël, que ça pourrait irriter les États-Unis. Les Européens, on s'en fout un peu. Ben-Gvir y est quand même allé. Et donc on voit quand même un ministre qui a désobéi à son premier ministre, et on voit que Netanyahou est en fait prisonnier de son allié. Il n'a pas pu lui imposer sa volonté, et ça a suscité effectivement des protestations en Jordanie, pourtant qui a signé un accord de paix avec Israël, et même dans les Émirats Arabes Unis qui ont également signé une paix avec Israël. Donc voilà, il y a vraiment là de lourdes complications qui pourraient venir. La situation, disons que pour des raisons de politique intérieure, Netanyahou a accepté un peu n'importe quoi de son partenaire, et cela pourrait avoir des conséquences non seulement nationales en Israël, non seulement nationales pour les Palestiniens, mais dans toute la région. C'est extrêmement préoccupant.
Merci mon cher Pascal Boniface pour ce décryptage. Je vous souhaite une excellente soirée et puis surtout à jeudi prochain sans faute, avec grand plaisir. Plaisir partagé mon cher Pascal Boniface, je le rappelle, c'est le fondateur et le directeur général donc de l'Institut Léris. 18h36 précisément, nous allons marquer une pause pub et on se retrouve tout de suite après avec direction Le Mans et ensuite Saint-Étienne. Nous allons retrouver Ayoub, Kader et tous les autres au 0153 48 3000 et ensuite après le face-à-face.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h42, si vous venez de le retrouver. Sachez-le, les informés, c'est ici que ça se passe. Allez, encore quelques auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Direction Le Mans, et je vais accueillir Ayoub. Bonsoir Ayoub.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien ?
Bienvenue. Bienvenue, on vous entend très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Ayoub ?
Alors moi, je travaille dans les assurances.
Et ça se passe bien ?
Oui, ça se passe très bien, je vous remercie.
Allez, Ayoub,
donc,
on vous écoute.
Je souhaitais donc réagir au sujet que vous avez abordé
absolument
tout à l'heure. Oui. Donc c'était pour dire que moi, je suis entièrement d'accord avec toutes les mobilisations actuelles,
oui.
Que ce soit les gilets jaunes, les boulangers, parce que c'est vrai, ils ont à faire face à des dépenses de plus en plus importantes et leurs revenus n'augmentent pas tant que ça.
C'est vrai.
Donc pour moi, c'est une bonne idée d'aller manifester, d'aller se révolter, entre guillemets.
Et vous-même, vous êtes
confronté. Il y a beaucoup aujourd'hui, je pense, de spéculation autour de toutes les matières premières et autres qui font que les prix augmentent alors que ce n'est pas forcément justifié. Et j'ai l'impression que le gouvernement ne fait plutôt le profil bas par rapport à ça et ne veut pas voir donc ces spéculateurs, entre guillemets, qui font que tous les prix augmentent aujourd'hui.
Dites-moi vous-même, Ayoub, est-ce que vous êtes confronté à ce quotidien qui est de plus en plus...
Alors,
compliqué.
Justement, pour ma part, j'ai la chance d'avoir un salaire plutôt confortable. Je suis payé un peu plus du SMIC. Mais bon, quand je vois des familles, quand ils font les courses, qui redéposent des articles sur le tapis de course puisqu'ils n'ont pas les moyens de les acheter, ça fait de la peine et c'est pas normal de vivre ça en 2023, pardon,
2023
maintenant. Et bon, je me dis que le pire, en plus, est à venir. Là, c'est que le début.
Mais
j'annonce le pire pour le milieu de l'année.
Non, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit, selon les experts conso, la hausse des prix va continuer de grimper, de prendre évidemment forme. Et à partir du mois de mars, on parle d'un mois de mars rouge.
Il y a des négociations en cours
rouge.
Au niveau des
Il y a une alerte. Le mois de mars risque d'être rouge.
Comment ?
Le mois de mars risque d'être rouge. Il y a une alerte.
Exactement.
Les experts le disent.
C'est ce qu'ils disaient aux infos. Ouais. C'est ça, le mois de mars, qui risque d'être très compliqué.
C'est une mauvaise nouvelle.
Ça fait peur pour tout le monde. Hein.
Ouais.
On se dit, voilà, on voit le porte-monnaie, le plein de courses qui diminue de plus en plus. Donc ouais, ça fait peur.
Merci, mon cher Ayoub, d'être intervenu.
Merci à vous.
Continuez de nous appeler au 0153 48 3000 tout de suite. Allez, c'est parti, le face-à-face.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Quel plaisir de retrouver ces jeunes gens. Oh là là, la bogossitude. Hein, c'est dans toute la splendeur cette année. Tiens, Jimmy Dalidou, bonjour.
Bonjour à tous.
Qui occupe ce tout nouveau poste à la SNCF.
Ouais, bah oui, on fait ce qu'on peut.
Félicitations.
Merci.
Bravo.
Merci, merci.
Heureux.
Bon, on s'adapte.
Toujours représentant CGT.
Toujours, toujours.
Plus que jamais.
Plus que jamais.
Notre représentant CGT ce soir qui a des choses à nous raconter. Exactement. Amine, ça, bonjour.
Bonsoir, Adil Farkan.
Qui lui aussi occupe un tout nouveau poste.
C'est vrai.
Sur la ville de Stain.
Exactement.
Ah, ça, et lui, il est à la direction générale. Il plaisante pas, c'est le costume noir. En face de lui, vous avez un financier. Ah, il est venu à la cravate, beau gosse. Hein,
j'arrive du bureau.
Il a plein de sous.
Il est venu avec une valise.
Il est venu
avec une valise. Il va la déposer.
Il
va distribuer en 2023. Il va distribuer du fric. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça, non ? Et du cash ?
Ça fait longtemps que l'argent est... Ouais, ça vient pas du Qatar, j'espère.
Ouais. Et pourquoi pas ?
Et pourquoi pas ?
Et pourquoi pas ? Karim Alouache, comment ça va ?
Écoute, très bien. Bonne année. Bonne
santé. À vous trois, bonne année.
Plein de bonnes choses.
Bonne année et bonne année aux auditeurs.
Ouais, ouais, bonne année aux auditeurs.
Non, très heureux. Très heureux de démarrer l'année avec toi.
Bah moi aussi, partagez. Moi aussi, partagez. Allez messieurs, vous savez quoi, tout de suite, nous allons démarrer avec ce tout premier sujet. Beaucoup d'auditeurs ont appelé justement parce qu'on parle, vous savez quoi, de cette grogne et notamment les gilets jaunes qui vont investir. Est-ce que c'est un peu le retour en force des gilets jaunes ce samedi, après-demain, parce qu'il y a la colère, il y a la hausse des prix, il y a l'inflation, il y a la galère aussi du quotidien des gens. Jimmy Dalidou, tout ça, évidemment, nous amène vers quoi ?
Ouais, alors d'abord, bonne année révolutionnaire à tous. Parce que.
Il démarre fort, hein, clochette, hein.
Le gilet jaune, d'ailleurs, je réfute ce terme qui consiste à dire le retour des gilets jaunes. Pourquoi ? Parce que les gilets jaunes ne sont jamais partis. Ce qui a généré les gilets jaunes, je rappellerai que c'est quand même des revendications justes, légitimes, universalisables, entre autres l'égalité sociale et une existence meilleure pour tous les travailleurs. Donc, de toute façon, ils n'ont jamais disparu. C'est la seule différence entre les gilets jaunes puissance 100 qu'on avait eu il y a quelques mois et les gilets jaunes de maintenant, c'est que les médias ont tout fait pour casser le mouvement des gilets jaunes et ensuite ils se sont détournés des gilets jaunes une fois que leur boulot de mensonge avait été fait. Donc, ce qu'il faut s'attendre, il faut s'attendre en 2023 à une recrudescence des idées insurrectionnelles, à une recrudescence de la colère sociale, à une explosion, j'espère,
une explosion de la colère sociale qui va pouvoir s'exprimer d'une manière ferme, solide, convenable et d'une manière surtout nécessaire, parce que je crois que les gens en ont ras-le-bol, ils en ont marre. Mais avant, vous étiez à découvert le 10 du mois et vous ne saviez pas comment finir le mois. Maintenant, dès le 5 du mois, les gars, ils ne savent même plus ce qu'ils vont, comment ils vont...
C'est sérieux, ça ?
Bien sûr, ils ne savent pas comment ils vont finir le mois.
D'ailleurs, les auditeurs l'ont dit tout à
l'heure. Et dans le même temps, vous constatez qu'on a des dirigeants, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, qui se gavent de fric. Je pense à Mme Kaili, directrice de l'Union européenne, et à tous ceux qui ont été arrêtés, qui ont été perquisitionnés par la justice belge, d'ailleurs, qui a fait un très bon travail.
Ah, vous aussi, vous êtes venu avec une valise, là.
Valise d'arguments. Alors, ces personnes qui touchent. Vous rendez compte que ces personnes qui touchent des valises d'argent provenant du Qatar, qui sont arrêtées pour corruption, qui sont condamnées pour corruption, ces mêmes personnes vous disent, par exemple, que vous allez travailler toute votre vie. Alors ces mecs-là, ils reçoivent des valises du Qatar, des valises pleines de billets de banque, ils les planquent à la maison. Alors ils organisent des petits coups de Trafalgar, des petits business, des véritables trafics. Hein, on le sait, ça a été organisé, un trafic grave. Et ces mêmes personnes vous disent, eh ben, vous allez travailler toute votre vie. Et de plus, vous allez, et en plus, ils vous disent qu'ils refusent d'augmenter vos salaires, alors qu'il y a une augmentation.
Alors, faisons un tour de table, justement, parce que ce que vous dites là, effectivement, j'aimerais entendre Karim Alouache et Amine Nsa. Non, mais c'est vrai, vous allez revenir, de toute façon, on va en parler, parce que le sujet est tellement explosif et tellement grave, la situation, elle est tellement, aujourd'hui, effectivement, préoccupante, que je veux qu'on prenne le temps d'en parler, notamment avec le grand retour des Gilets jaunes, même si vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas le retour réellement. Amine Nsa.
Non, mais clairement, on vit une période extrêmement difficile. Toute l'année 2022 a été très très difficile. Il y a eu la sortie de crise sanitaire. Il y a eu notamment tout un tas de hausses, l'inflation qui est extraordinaire. Et puis, il faut quand même le rappeler, il y a eu un saupoudrage qui a permis quand même de maintenir le niveau de l'inflation plutôt bas par rapport à nos voisins européens.
Sauf que là, on annonce quand même les mois à venir.
C'est ça que je veux pointer rouge. Justement, c'est que il y a eu des mesures fortes, pour moi, qui étaient fortes parce qu'elles ont été très coûteuses. On parle de près de 30 milliards d'euros qui ont été mis sur la table sur la ristourne sur le carburant, sur le bouclier tarifaire, etc., etc. Tout ça a permis de maintenir un niveau d'inflation plutôt, on va dire, tenable, mais là on le voit bien, le mois de janvier va se terminer à autour de 7% de l'inflation. On voit bien qu'il y a, on l'a vu avec les boulangers sur la facture d'électricité qui a explosé. Il y a d'autres colères aussi, celle des médecins qui réclament l'augmentation du prix de la consultation. Il y a les magistrats aussi qui sont en colère parce qu'ils travaillent dans des conditions absolument déplorables. Il y a cette réforme des retraites qui veut pousser les gens à travailler jusqu'à 65 ans. Enfin, tout ça mis bout à bout crée quand même les conditions d'une poudrière quelque part dans le pays. Et donc je crois que le 7 janvier et le 21, je crois qu'il y a une autre action prévue le 21 janvier, vont être particulièrement mouvementées. Et moi, j'appelle de mes voeux que toutes ces revendications s'agglomèrent pour créer les conditions d'un mouvement général, pour faire plier ce gouvernement qui, manifestement, n'a pas compris que là où ça se passe, c'est pas du côté...
Mais vous entendez ce que dit Jimmy Dalio ou pas ?
Mais je l'entends parfaitement. Après, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur la méthode, etc. Mais le constat est...
C'est que tu veux discuter avec des gens qui veulent pas discuter.
Je cherche pas à discuter. Moi, je cherche pas à discuter. C'est pas une question de discussion. Aujourd'hui, les mesures qui sont prises sont du saupoudrage. Ce sont des mesurettes à la marge. On met des rustines sur des blessures très profondes. Et ce qu'il faudrait, c'est aller sur des réformes importantes. Il faut augmenter les salaires parce que ça ne peut passer que par là. Appeler de ses voeux, parce que c'est ce que disait Mme Borne, appeler de ses voeux les entreprises à augmenter les salaires, elles ne le feront pas. Elles n'ont aucun intérêt à le faire.
Karim Alouache, vous partagez ?
Moi, je ne suis pas contre augmenter les salaires. Hein. De toute façon, quand on
augmente les salaires... Bien dans le micro, remontez bien dans le micro, s'il vous plaît, remontez-le. Voilà.
Quand tu augmentes les salaires...
Oui.
Tu augmentes les cotisations, donc tu augmentes mécaniquement les rentrées d'argent. Moi, je voudrais revenir sur... alors, on parlait d'inflation, donc ça, c'est pas 7, c'est 5,8, mais Tout dépend de ce que tu mets dans
la question. On va finir à 7 au mois de, à fin du mois de janvier.
Ouais, on verra, mais
les prévisions, en tout cas, c'est les prévisions.
Tout dépend de ce que tu mets dans l'inflation, c'est toujours pareil. Si tu mets le coût de l'énergie, on est plus à 5,8, quoi. Donc, c'est facile de dire qu'on a la moins forte inflation par rapport aux autres pays. Si tu, en gros, si tu compares
artificiellement
et des choux-fleurs, effectivement, tu n'auras pas la même chose.
Aujourd'hui, je vais vous interrompre, pardonnez-moi, Karim Alouache. Juste, je dois lancer la pub impérativement et je vous redonne la parole tout de suite après. À tout de suite, ne bougez pas, c'est Karim. Non, mais...
Les informés reviennent dans un. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
Et les 18h55, Les Informés avec Amine Sa, avec Jimmy Dalidou et enfin avec Karim Alouache. Et je vous redonne la parole concernant cette colère. Comment calmer la colère, justement? La colère de tous, d'ailleurs, les gilets jaunes, les médecins, nous, la population,
les boulangers,
les boulangers, les restaurateurs. Ça explose de partout.
Non mais, enfin, c'est difficile de prédire ce qui va se passer avec les gilets jaunes. Ça démarre en 2018.
Bien dans le micro.
Pour une hausse et puis ensuite pour surtout un positionnement contre le gouvernement. Il y a eu depuis quelques petites ressorties, mais pas grand-chose. Je crois qu'il est quand même difficile de dire ce que ça donnera. Il y a une certitude, c'est que rien n'a changé. Les revendications sont toujours là. C'est-à-dire les motifs, au contraire, se sont accumulés et ont bien augmenté. Moi, la question que je me pose, c'est vis-à-vis des ménages. Quand tu n'as plus rien à mettre dans l'assiette de tes gosses, qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu vas perdre?
C'est ça la vraie question.
Et on ne peut pas... Alors, je suis contre dire il faut prendre des mesures si on ne me donne pas concrètement des mesures. Ça ne veut rien dire. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas énervés, sont...
Comme ils sont en colère, quand même.
Non, ce n'est pas un énervement comme quand tu es contre une attitude, une position. Ils sont à bout. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand tu es à bout...
Ouais.
Non, quand tu es énervé contre quelqu'un, pour des propos et autres, c'est différent de quand tu es à bout. C'est-à-dire quand tu es à bout, tu n'as plus le choix. C'est à un moment donné, c'est où je crève, où je crève.
Tu sais que le ça est incontrôlable quand tu s'extériorises.
Où je m'en sors. Et ça... ça devient général, tout pète. Ce qui me déçoit dans le gouvernement, il y a deux choses. Il y a l'attitude, et je pense que si on parle des réformes de retraite, Macron ne changera pas de position parce qu'il veut marquer l'histoire. C'est ça. C'est plus grave que la nécessité de faire une réforme ou d'être dans l'intérêt collectif, c'est parce que lui, il veut marquer son histoire, il veut marquer son mandat, et c'est le gars qui aura réformé les retraites. C'est d'autant plus grave. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les gens sont épuisés, mentalement, physiquement. C'est pas normal que le 5 ou le 10... C'est pas normal qu'on n'ait plus de classe moyenne.
Y a plus de
c'est
classe
ça,
moyenne.
Surtout. Et c'est une des caractéristiques d'un pays développé. Ouais. On n'a plus de classe moyenne.
Alors, Jimmy Dalidou veut vous répondre. Il veut vous répondre, attendez.
C'est logique. Alors,
logique, allez-y.
Alors, trois choses. Je rappellerai quand même que les rouages de fonctionnement du capitalisme sont clairs. À partir du moment où vous avez accumulation ou concentration du capital, vous avez forcément déclassement.
Je rigole, non, mais...
vous avez forcément déclassement. C'est-à-dire que la classe moyenne, forcément, est déclassée, elle est prolétarisée. C'est fait partie des rouages de fonctionnement du système. Moi, je reviendrai sur deux éléments. Le premier élément, c'est qu'on constate que quand on revient sur les boulangers, par exemple, les boulangers, les médecins, les magistrats, etc., on constate qu'à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, on a eu des débats sur Beurre FM et on avait dit qu'à un moment, notamment les dirigeants de TPE, PME, devaient rejoindre à un moment ou à un autre la classe ouvrière et les couches populaires, donc le peuple travailleur à la base. Pourquoi ? Et que cette convergence était nécessaire parce que lorsqu'on analyse les conditions d'existence concrètement d'un boulanger qui dirige une TPE, un boulanger ou un autre, hein, un petit boucher, un petit boulanger, le petit coiffeur du coin, et quand vous faites le parallèle avec le prolétaire, souvent ils ont les mêmes conditions d'existence matérielle, et souvent même le dirigeant de TPE, et il a des conditions d'existence pires que le prolétaire. Donc moi ce que je dis, c'est qu'à un moment, il faut qu'on trouve une véritable convergence et que ces dirigeants des TPE...
Je la voyais arriver, cette convergence, parce que la convergence, elle fait partie de votre
philosophie. Oui, parce que les dirigeants des TPE, PME,
notamment,
doivent comprendre qu'ils payent
la masse.
Ce que les monopoles capitalistes ne payent pas.
Vous faites référence à la masse ?
Il faut que la masse se mette en mouvement. La masse en mouvement. Deuxième élément,
je reviendrai
sur le terrain syndical. Je crois qu'à un moment, il faut faire son autocritique. Et je suis le premier à faire mon autocritique en
sortant syndical. Mais ils pèsent rien, les syndicats.
Moi, je crois qu'à un moment, les syndicalistes révolutionnaires, les syndicalistes de conviction, les syndicalismes qui ne pactisent pas avec l'ennemi, ces syndicalistes-là, on doit, et moi le premier,
On doit prendre nos responsabilités. Il y a eu des gilets jaunes. Il y a un peuple travailleur qui se castagne tous les jours, que ce soit des dirigeants de TPE ou des prolétaires. Et à un moment, le syndicaliste révolutionnaire, il doit prendre ses responsabilités.
Vous êtes d'accord avec ça, Karim Alouache?
Non, moi je parlais.
Je vous voyais réagir.
Moi je parle d'appauvrissement. C'est pas du tout la même chose. D'abord, il faut pas opposer les classes parce que être chef d'entreprise, déjà, c'est très difficile. Être chef d'entreprise aujourd'hui, c'est compliqué. Mais de l'autre côté, on a aussi besoin du capital pour financer les investissements. Et c'est grâce aux investisseurs qu'on a des grandes entreprises comme celle.
On n'a qu'à socialiser la valeur.
Après,
tu socialises la valeur. Voilà.
Alors, ça a été fait. Ça a été fait
tu dans un. La valeur, non, tu l'as réinjecté dans le système.
Ça a été fait dans un pays qui s'appelle le Venezuela, qui est placé du premier rang américain, Amérique du Sud, au dernier rang d'Amérique du Sud. Donc, on va pas recommencer les erreurs des autres. Moi, ce que je crois surtout...
À la même base économique, mais sans les erreurs politiques.
C'est qu'à un moment donné, cette situation a révélé des choses et surtout la fin des institutions. Aujourd'hui, je souris quand je vois les syndicats se bouger. Les syndicats, aujourd'hui, on a eu un débat là-dessus, mais c'est une réalité. Et c'est bien que tu dises qu'il faut se remettre en question. Ils ne représentent plus personne ou plus grand-chose. Mmh. Les gilets jaunes l'ont démontré. Je pense qu'il y a une propagande en ce moment de parler des gilets jaunes parce que les syndicats ont envie que les gilets jaunes ressortent dans la rue pour lancer un mouvement et tout, parce qu'il semblerait que ce soit les seuls, en fait, aujourd'hui.
À quoi peut-on s'attendre, justement, samedi?
Aujourd'hui, moi,
on parle beaucoup de violence. Non, est-ce que c'est vrai, ça?
Aujourd'hui, parce que il faut savoir
qu'il est 19h pour celles et ceux qui viennent de
l'enjoindre. On subit énormément de poursuites judiciaires très graves et très lourdes. Ça les a épuisés. C'est une réalité, hein. On ne le dit pas, mais c'est ce qui s'est passé. Et ils sont contre la violence. Et aujourd'hui, ce qui leur fait peur, c'est de ne pas avoir cette maîtrise de la violence, parce qu'on sait tous que s'ils descendent dans la rue samedi, ça va brûler, ça va péter partout, parce qu'il y a des gens qui sont là aussi, ils sont là aussi pour ça. Moi, ce qui m'interpelle le plus dans tout ça, d'abord, il faut pas avoir, quand on parle de la réforme des retraites, il ne faut pas avoir une attitude alarmiste. Aujourd'hui, le système de retraite, il n'est pas en danger. Il faut arrêter de dire qu'il n'est pas en danger du tout. Hein, il n'est pas déficitaire. Donc là-dessus, il n'y a pas le feu. C'est surtout, moi, je pense, l'attitude un peu... j'écoute pas, je parle pas du gouvernement. Je fais ce que je veux, mais il va te dire... C'est la caractéristique du gouvernement depuis le début. Il communique, il dit beaucoup de choses, mais il ne fait pas grand-chose.
Justement, parlons-en. Cette transition me permet d'enchaîner sur le second sujet, la réforme des retraites. Alors, d'un côté, vous savez, la NUPES répond, et concernant donc les propos d'Elisabeth Borne, la Première Ministre, vous avez aussi Philippe Martinez qui dénonce une position dogmatique de l'autre, Laurent Berger, qui s'est exprimé à plusieurs reprises, hein, pour la CFDT. Alors, cette réforme des retraites, finalement, est-ce qu'elle va déboucher, et à quel prix, surtout ? Amine Sarr.
Moi, je suis assez pessimiste là-dessus. D'abord parce que je vois pas comment ils arrivent à trouver une majorité là-dessus. Certains même au sein de la majorité présidentielle.
Elle a tendu la main à Éric Ciotti. Hein.
Oui, elle tend beaucoup la main à droite, à gauche, mais en réalité, elle se fait beaucoup claquer la main, en réalité. Bon, on verra, parce que si la droite républicaine, les républicains, serrent la main de Madame Borne pour... s'enliser dans cette réforme qui, à mon avis, ne verra pas le jour, ils signent définitivement la fin de leur parti, de leur mouvement. En même temps, au sein même de la majorité, il y a quelques dissidences, quelques voix dissidentes qui disent quand même, dans la période que nous vivons, avec autant de difficultés, est-ce que c'est le moment pour une réforme des retraites ? Bon, le timing ne semble pas bon pour certains non plus. Donc tout ça, mis bout à bout quand même, laisse penser ouais. que cette réforme n'ira pas jusqu'au bout.
Vous êtes convaincu de ça ?
J'en suis pas convaincu. On verra déjà comment va réagir le pouvoir face à la rue. Positif, ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que c'est son objectif. Hein. Ça a été reculé une première fois. Ça devait déjà démarrer au mois de décembre, les discussions. Là, elles ont été reculées au mois de janvier. On verra comment ça se passe dans la rue. Et je pense que ça va déterminer la suite pour l'action du gouvernement. Maintenant, sur le fond du sujet, je pense que ce qui a été annoncé au départ, notamment cet âge de 65 ans, clairement, ce sera jamais 65 ans. D'ailleurs, le président de la République s'était déjà trahi pendant la campagne présidentielle, où il avait évoqué le chiffre de 64. Aujourd'hui, on évoque 65 parce qu'on veut se laisser une petite marge de négociation avec les Républicains, qui seraient plutôt tentés d'aller vers 64. Mmh. Mais quid du Rassemblement National ? quid de la NUPES qui quand même est en train de s'effriter dans la période et d'ailleurs les syndicats aussi, même s'ils ont montré un peu d'unité il y a quelques jours, là on voit déjà quelques paroles dissidentes. Tout ça mis bout à bout donne quand même l'impression que on risque d'avoir un mois de janvier très chaud et que les discussions ne seront pas sereines à l'Assemblée. Et je vois pas comment comment à l'aube d'une potentielle dissolution, parce que clairement il y a d'autres textes derrière qui vont arriver qui nécessiteraient des 49-3, et je ne crois pas que certains aient envie de s'engager dans un vote en faveur des textes de Mme Borne. Je ne vois pas comment on ne va pas vers une dissolution et comment on engage une réforme des retraites sérieuse.
Vous êtes d'accord avec ça? C'est intéressant ce que vous dites, Amine, ça, justement.
Un petit tour de table. De moins en moins.
Oui, Jimmy Dalidou et ensuite Karim Alouache.
Contrairement à ce que dit Amine, je crois que cette réforme des retraites irait jusqu'au bout. Pour la simple bonne raison que, je ne reviendrai pas sur le fond de la retraite, on n'aura pas le temps, mais d'une manière générale, il va y avoir une baisse mécanique des taux de pension, c'est inévitable. De par la valeur de service, de points qui sera conditionné par le PIB, l'état économique et social du pays, par des personnes qui vont calculer la valeur de service, on ne sait même pas d'où ils viennent, quelle est la composition sociale de ces personnes qui vont calculer, on sait pour qui elles vont bosser, elles bosseront pour l'exécutif, bref. De toute façon, vous aurez un taux de pension qui va baisser. Et dans le même temps, cette baisse mécanique du taux de pension va faire que la plupart des Français n'auront pas d'autre choix que de s'orienter vers les agences de spéculation privée, les agences qui vont spéculer sur les retraites privées. C'est ça que veut le gouvernement. Il sait très bien qu'en faisant passer la retraite à point, ça ouvre la porte aux multinationales qui vont pouvoir spéculer sur les complémentaires retraites privées. Les Français n'auront pas d'autre choix, parce que quand on va leur dire que tu toucheras 1000 balles en retraite après avoir été exploité toute ta carrière, parce que c'est ça dont on parle, le capital exploite la force de travail, c'est comme un vampire en fait, il vous pompe le sang jusqu'au bout pour pouvoir vivre, et à la fin il vous laisse dans une belle merde. C'est ça le capital, et à la fin vous n'aurez pas d'autre choix que de courir vers les agences privées et qui vont spéculer sur une retraite complémentaire, vous voyez. Et même si t'es cassé, en plus de ça, ça ne veut pas dire que il va y avoir une amélioration des conditions de travail. Je vous rappellerai que la retraite à point ne s'accompagne pas d'une perspective, d'une amorce de perspective concernant une amélioration des conditions de travail. C'est le contraire qui se passe. On a parlé du phénomène de déclassement de la classe moyenne qui devient prolétaire, qui est prolétarisé sous le poids
du capitalisme et du monopole. Jimmy Dalidou, pas de problème.
En fait, on va prendre tous plein la gueule. C'est ça qu'il faut comprendre.
C'est ça qu'il faut. Bon, vous êtes Karim, alors je voudrais vous entendre là-dessus, sur la réforme des retraites notamment, et sur ce que propose, sur la vision proposée par Amine Saha et par Jimmy Dalidou.
Non, mais la réforme des retraites, on a un système de retraite qui fait, par répartition, qui fait que, en gros, c'est les cotisations des actifs qui financent les retraites. Et comme on a une espérance de vie qui s'allonge et une population vieillissante, au bout d'un moment donné, on a de moins en moins d'actifs. Ça, c'est mécanique, avec de plus en plus de retraités et donc de retraites à payer. Mais ça, c'est un sujet structurel et structurant à long terme, pas dans l'immédiat. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la priorité, là, du moment, c'est pas la réforme des retraites. La priorité du moment, et je suis désolé de le dire, mais hélas, le seul parti qui en parle, c'est le RN, c'est le pouvoir d'achat. C'est ce qui préoccupe aujourd'hui les Français. On n'est pas tous égaux vis-à-vis
Donc vous êtes en train de nous dire que c'est pas prioritaire.
C'est pas. Non, mais d'ailleurs mais c'est pas passé.
Pourquoi tu fais une différence entre les deux? T'as pas de différence entre la retraite et le pouvoir d'achat. Les deux sont liés.
C'est placé en cinquième position de priorité pour les Français. D'accord. Donc à un moment donné, il faut peut-être aussi écouter.
Ouais, t'as regardé un tableau qui est apparu, je sais pas où. Non, mais il n'y a pas de différence entre la retraite. Les deux éléments sont importants et sont totalement intégrés dans les conditions d'existence des Français.
Non, mais c'est ta vision.
Ah, tu traces une ligne de démarcation entre les deux. Comme
c'est
si
ta vision et c'est pas la mienne. Et heureusement.
Et tu sais bien, tout à l'heure, tu dis vision à long terme. On parle d'abord des deux gamins. C'est nos gamins qui vont travailler jusqu'à 65 ans. À la limite, c'est pas nous.
Jimmy, laisse-moi terminer.
Ça, 64 ans, on parle maintenant. Important. On parle de 64 ans.
De toute façon, il y aura un âge pivot. L'âge de décote et l'âge de
Il y a deux sujets dans la réforme des retraites. C'est la détermination d'un âge pivot. Et la deuxième chose, c'est il y a 42 régimes de retraite et passer à un régime.
38 maintenant.
Pour l'instant, il y en a 42, au dernier chiffre, 42. Mais c'est 42 aujourd'hui. Mais si tu veux, et puis en plus, ça ne touchera pas tous les régimes.
Parce pour que un régime.
Moi, quand on va parler des régimes de retraite, je dis, ok, on va toucher au régime de retraite des sénateurs, on va toucher au régime de retraite des députés, et puis des autres. Pourquoi? Tu vois, moi, je vais vous donner un exemple tout bête. Pourquoi un ministre, avec un mandat, toucherait une retraite à vie, alors qu'il doit faire minimum 6 mois de son mandat pour toucher sa retraite. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi un élu qui aura fait un mandat ou deux mandats touchera une retraite sur du long terme à vie parce qu'il a fait que deux mandats? Soit tout le monde cotise la même chose et la durée pour tout le monde, soit c'est pas la même chose. La deuxième chose qu'il faut
donc
intégrer,
vous exigez c'est pas l'équité.
Mais oui, mais là, quand tu parles à ce niveau-là, mais cela. Vous savez pourquoi les sénateurs ont une caisse de retraite hyper excédentaire au-delà de sa gestion? C'est que les sénateurs sont sénateurs jusqu'à 80 ans. Et en général, quand ils arrêtent d'être sénateurs, ils meurent. Il y en a plein aussi qui finissent comme ça. Donc, ils sont toujours actifs et ils continuent à cotiser. Et puis, il y a quand même quelque chose d'important. C'est facile. Moi, honnêtement, je pourrais dire, moi, mon job, je peux le faire jusqu'à 70 ans. Parce que physiquement, il n'est pas éprouvant, parce qu'il y a des conditions de travail qui sont assez confortables.
Vous voyez, vous bossez jusqu'à 70 ans?
Ça ne me pose aucune difficulté aujourd'hui.
Aucun problème.
Non, mais honnêtement, j'ai pas quelque chose qui est physiquement éprouvant. Mais je ne suis pas à la place d'un gars qui est avec un marteau-piqueur tous les jours, une caissière qui a des tendinites à faire les choses, un conducteur de train qui... j'ai vu une émission l'autre jour, j'ai halluciné. C'est le fait de la prévoyance d'aller au petit coin quand tu pilotes un train, parce que quand il roule, il faut le prévoir, il faut le gérer. Et puis parce que si t'es en levée, tu peux pas lâcher comme ça le truc, parce que le gars il est tout seul quand même dans la cabine. Donc
c'est
on est pas
on
égaux.
Bah tu prévois.
Ouais.
Quand je suis dans mon train, je prévois avant, sinon c'est mort.
J'ai appris ça, tu vois. Je connais quand même des petits sujets, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas dire que tout le monde va être traité de la même manière.
Non, ça c'est vrai.
Il y a une chose qui n'est
donc
pas
on peut pas parler
normal. Voilà. Il y a deux choses dans ce pays.
Le capital n'est pas équité.
Non, mais il y a deux situations qui ne sont pas normales dans ce pays-là. La notion de travailleur pauvre. Tu peux pas travailler et être pauvre. Pour moi, il y a quelque chose qui ne colle pas là-dessus. Et tu ne peux pas t'appauvrir quand tu es à la retraite. C'est pas normal non plus. Moi, je connais des gens qui ont des revenus assez conséquents et qui veulent pas prendre leur retraite aujourd'hui, qui veulent pas la prendre parce que ils ne sont pas en situation d'encaisser cette perte de pouvoir d'achat, parce qu'ils ont encore des enfants scolarisés par exemple, parce qu'ils ont encore des crédits à payer par exemple, et qui voudraient partir. Puis il faut avoir aussi en tête, c'est qu'à un moment donné, il faut renouveler. Si tu pars pas, les jeunes ils rentrent pas. Enfin, c'est tu sais, ce système un peu de renouvellement où les anciens partaient, les jeunes arrivaient. D'ailleurs, il y avait le principe de les anciens formaient les nouveaux, etc., etc. On ne le retrouve plus aujourd'hui. Donc, moi, ce qui m'embête, tu vois, ce qui me dérange vraiment, c'est cette notion de retraité ou de travailleur ou de salarié pauvre. C'est pas normal qu'aujourd'hui...
La première chose, c'est qu'effectivement, il y a certaines spécificités. Je prends l'exemple sur les conducteurs de train, par exemple. Les conducteurs de train, on est super suivis sur le plan médical et psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes pistés de partout. Il faut que vous ayez des yeux au top, l'ouïe au top. Il faut que vous ayez... Tout est contrôlé. Et regarde, si vous fumez trop, vous buvez trop, tout est contrôlé. Vous voyez ? Donc, si vous arrivez à 60 ans, par exemple, et que vous avez des problèmes au niveau de santé, de toute façon, ils vont vous mettre inapte sécurité. Ce qu'on appelle chez nous inapte sécurité. C'est-à-dire qu'ils vous descendent de machine, vous ne pouvez plus conduire. Parce que vous n'êtes plus au top. Là, par exemple, il faut prévoir des process de reclassement. Parce que si vous êtes descendu de la machine à 55 ans et que vous n'êtes pas reclassé, vous faites quoi pendant 10 ans? Vous voyez? Pareil pour là, je suis d'accord avec Karim, le gars qui travaille sur les chantiers, il porte des parpaings toute sa carrière. Vous savez, moi, mon père, il était cuisinier. Ma mère est secrétaire, mon père était cuisinier. Il a travaillé toute sa vie dans la restauration. Il est arrivé à la retraite, il avait 60 ans. J'avais mon père à 60 ans, j'avais l'impression qu'il en avait 75. Parce qu'il était malade, il était cassé en 10, il avait toute sa carrière, il avait été exploité, martyrisé par le capital. J'ai pas honte d'utiliser les bons termes. Et on est en train de nous dire que le travailleur, de toute façon, même si la vie s'allonge, parce qu'effectivement, il y a un apport de la science médicale, etc., mais le terrain d'exploitation dans lequel est en mouvement la force de travail, ce que vive le peuple travailleur, fait que de toute façon, ils vont pas atteindre les 65 ans en bonne santé. De toute façon. Donc il faut prévoir.
Très intéressant ce que vous dites.
Il faut prendre en compte tous les paramètres et il faut prendre ce paramètre.
Karim Alouache, c'est ensuite Amine Sarr.
Le peuple travailleur est exploité.
Karim
il a des conditions de travail exécrables.
L'espérance de vie, elle est escalée aujourd'hui, mais aujourd'hui, l'espérance de vie d'une femme, par exemple, c'est 93 ans quand même. C'est assez remarquable.
L'homme, 85.
Moi, je suis pas d'accord, c'est pas le capital.
85 pour l'homme.
Oui, c'est pas le capital qui maltraite les gens, c'est les hommes qui maltraitent les hommes. C'est
une classe sociale qui martyrise.
C'est les hommes qui maltraitent les hommes et personne n'est obligé de maltraiter qui
que ce soit. Une classe sociale propriétaire des moyens de production.
Pour moi, la notion du répartition du capital, c'est comment on réinvestit et comment on répartit et comment on fait profiter les salariés de la croissance. C'est pas du tout.
On continue d'en parler, messieurs, 19h14 précisément. Amine, je vous ai pas oublié, je vous donne la parole justement, parce que je voudrais vous entendre sur ce sujet. Pour la dernière ligne droite, à tout de suite, ne bougez pas. Courte pause.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés, chers amis, dernière ligne droite, 19h20, avec Amine Saha, avec Jimmy Dalidou, et enfin avec Karim Alouache. Amine Saha, avant de retrouver les deux derniers sujets qui nous attendent, concernant évidemment ce débat, notamment provoqué par Jimmy Dalidou, et puis cet échange avec Karim Alouache. Vous dites quoi ?
Moi, je reste persuadé que, en tout cas, le projet de réforme tel qu'il est présenté aujourd'hui n'ira pas jusqu'au bout en l'état. Peut-être que aboutira sans doute un projet de réforme dans lequel il va falloir faire tellement de concessions qu'au final, il sera totalement détricoté. Et d'ailleurs, c'est à l'image de ce qu'ont fait les présidents de la République depuis déjà une trentaine d'années. À chaque fois, ils ont reculé parce que les conditions n'ont jamais été totalement présentes. Les planètes ne sont pas alignées. Par ailleurs, Karim Alouache le disait tout à l'heure, il n'y a pas péril dans la demeure pour l'instant. C'est-à-dire que notre régime de retraite, notre système de retraite n'est pas en péril. Il n'y a pas de déficit annoncé. Le Conseil d'orientation des retraites l'a dit à plusieurs reprises, notamment dans son dernier rapport. Il n'y a pas de péril de financement de notre système de retraite.
Économique, mais sur le plan économique.
Il y aurait potentiellement un début de déficit à l'horizon 2047-2048, sauf qu'on n'y est pas encore, et on a, par ailleurs, et la démonstration a été faite, on a plein d'autres manières pour dégager des marges de manœuvre et financer ce potentiel déficit. Donc, il y a vraiment aujourd'hui, dans cette obstination du pouvoir, c'est même pas une doctrine, finalement, c'est même pas une idéologie. En réalité, la seule boussole d'Emmanuel Macron et de sa majorité, c'est les directives de Bruxelles.
Les directives de Bruxelles, justement, je voudrais parler aussi d'un autre sujet, directives de Bruxelles ou pas, mais il y a une vraie pénurie aujourd'hui de Doliprane qui va perdurer, chers amis. Alors, aujourd'hui, notamment, j'avais posé la question, et je voudrais vous la poser, vous aussi, chers messieurs, sur la pénurie de médicaments. Est-ce qu'on peut s'interroger ? Parce que nous sommes en France, effectivement, et on parle de Doliprane, le premier paracétamol le plus consommé.
Alors, c'est simple.
Aujourd'hui, il est impossible de trouver du Doliprane.
La question du paracétamol, sur Internet, de manière générale, au-delà du Doliprane, c'est cette molécule aujourd'hui. Déjà, c'est un médicament aujourd'hui qui est tombé. Il y a plus, enfin, les brevets sont tellement anciens que c'est maintenant un médicament qui est tombé dans le domaine public. Et donc, les labos pharmaceutiques n'ont plus vraiment d'intérêt financier à produire ce médicament, parce que il y a une ouverture à la concurrence sur cette molécule qui fait que son prix a beaucoup baissé. D'ailleurs, c'était le même débat sur la question de la chloroquine. Pourquoi est-ce qu'on n'administrait pas de chloroquine ? Parce que c'est un médicament qui coûte pas cher et donc aucun intérêt pour les labos. L'intérêt, c'était de mettre en place créer un vaccin que l'on peut vendre et que l'on peut finalement sur lequel on peut faire des profits. Et on revient à ce que dit notre ami Jimmy Dalidou, c'est-à-dire que aujourd'hui notre santé, notre système de santé de manière générale, au-delà de la question du paracétamol, il est guidé par une volonté de profit, de créer du profit. Et c'est là tout le problème. Et on voit bien d'ailleurs dans notre système de santé, là où on avait une part importante qui était allouée à la solidarité sur la santé, aujourd'hui, et la part la plus importante, elle est accaparée par les labos pharmaceutiques qui sont le premier contributeur au déficit de la sécurité sociale. Et donc, c'est cette tendance-là qu'il faut inverser. Il faut renforcer au contraire le soutien aux soignants, le soutien notamment aux médecins qui manifestent pour obtenir une augmentation du tarif de la consultation, nos pharmaciens qui travaillent parfois dans des conditions particulièrement difficiles. Enfin, tout ça participe quand même à démontrer que notre système de santé, que notre modèle de santé est à bout de souffle, qu'il est temps, qu'il est même.
C'est surtout ça, c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse, justement.
Et qu'il est temps maintenant d'en créer un nouveau.
J'allais poser la question, Jimmy Dalidou.
Ouais, tout à fait. Alors c'est lié, alors on parle de Doliprane, mais c'est certainement qui reflète un.
Camille a lâché, il a lâché.
Ouais, mais je suis d'accord avec Camille sur le fait que malheureusement, on a arrivé à un niveau où les forces du capital spéculent jusqu'à la vie des hommes. Alors vous savez, il faut bien comprendre une chose. C'est quand dans le process de production, dans le capital, c'est simple. Dans un process de production, l'homme n'est pas un homme. Il faut arrêter de croire qu'on est des hommes. On est des capitaux variables.
L'homme est un loup.
On est des capitaux variables. C'est-à-dire, nous sommes que des simples marchandises productrices de profit. Et à partir de là, vous avez compris que vous avez effectivement des industries pharmaceutiques, etc., etc., ce qu'on appelle des monopoles, en d'autres termes des multinationales, qui spéculent jusqu'à spéculer sur la santé, sur les médicaments, et spéculent surtout, si vous voulez, pour augmenter le taux de profit, il n'y a plus de limite. Et les médecins, ils vous le disent. Avant, il y avait un hôpital qui était l'hôpital public. La différence entre la... Moi, je suis cheminot, je travaille à SNCF. Moi, j'ai été éduqué par l'esprit du service public. C'est-à-dire l'esprit du service public, ça veut dire que t'es pas soumis au rendement, t'es pas soumis au profit, t'es pas soumis aux chiffres, t'es pas soumis à la vitesse de travail. T'es soumis à une mission de service public. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que tu dois, c'est de servir l'intérêt général. C'est-à-dire que ton train puisse servir l'intérêt général, que ton hôpital puisse servir l'intérêt général. De même pour tous les gros centres de services publics. Maintenant, l'hôpital est au service, est devenu un terrain de spéculation.
Karim Alouache,
c'est ça d'abord, il n'y a pas de quoi s'alerter. Aujourd'hui, vous allez dans une pharmacie, vous allez trouver du Doliprane et du paracétamol. Et à force d'alerter les gens, ça va faire comme la moutarde ou l'huile. On ne va plus en trouver parce que tout le monde va vouloir en acheter. Il y a une réalité, mais le Covid a mis ça en évidence. D'ailleurs, on a un haut commissaire au plan. Je ne vois pas à quoi il sert, François Bayrou. Je ne sais pas ce qu'il a fait depuis le début qu'il est là-dedans, à part avoir eu
la
Légion d'honneur. Mais c'est sa mission.
Le
haut commissaire au plan aujourd'hui, sa mission depuis 2020.
Faut pas dire ça.
Sa mission, c'est de réindustrialiser la France. La réalité, elle est où? La Chine est en pleine crise Covid. Qui dit Covid crise dit fébrile, fièvre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut du paracétamol. Eh ben, quand t'as 500 millions de Chinois malades et qui consomment du paracétamol et que le paracétamol, il est essentiellement produit où? En Chine. Eh ben, la production, elle reste locale pour les Chinois. Et nous, ben, on arrête d'être fournis et on attend.
C'est la même histoire
qu'avec les masques. Ça veut dire qu'on a tiré aucune leçon de 2020. Zéro. Et on a un haut commissaire au plan qui est François Bayrou, qui vient d'avoir la Légion d'honneur. J'ai halluciné, on ne le voit pas, il est nulle part, dont la mission, c'est de reproduire, de refaire venir les industries en France. C'est ça le sujet de la pénurie de médicaments. Et on ne manque pas que de médicaments, même si aujourd'hui, il n'y a pas le feu en la matière. On va manquer de plein de choses. Parce que tout est produit là-bas, c'est tout.
C'est tout le problème, sous le poids des directives européennes et de cette politique nauséabonde. Notre pays, la France, est devenu un pays commercial et n'est pas un pays producteur. Le problème, il est là. Donc, c'est un pays commercial et il fait que du commerce. Ça fait des années que les institutions européennes et leurs directives farfelues nauséabondes pulvérisent l'industrie française et en produit plus rien.
Eh bien, merci, messieurs. Le débat continue, vous le savez plus que jamais. On continuera d'en parler ici. Jimmy Dalidou, représentant CGT, mais également auteur. Merci infiniment. Karim Alouache, plus que jamais, évidemment, engagé sur la vie politique, mais aujourd'hui, il est dans la finance, banquier d'affaires. Merci, Karim. Absolument.
Plus politique.
Merci, Karim Alouache. Au plaisir.
Oui.
Amine Saha. Il est complètement engagé dans la vie politique, lui.
Oui, bah, élu à la Courneuve.
Exactement.
Et puis vice-président de l'Association des élus de France.
Absolument. Bah, écoutez, au plaisir.
À bientôt.
Mylène Edman, c'est de 20h à 21h. Vanessa va partir de 21h. Et ensuite, nous, on se retrouve demain avec autant de plaisir. Merci à la réalisation, à Anthony.
Merci à vous.
La course en permanence. Et puis, on ne lâche rien. Ciao, à demain.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.